Qu'est-ce qui vous fait marcher dans la vie ?
Le désir. Le désir dans son amplitude la plus grande, sans même le référer à quoi que ce soit. En dehors du fait que je suis une grande marcheuse de ville, de campagne, de bord de mer, de chemin côtier, de montagne. La marche est une sorte de repos finalement de ce qui viendrait empêcher la pensée. La marche soulage de ce qui viendrait empêcher la pensée. Et donc à ce titre, c'est une forme d'écriture.
Bonjour pour ce nouveau numéro de Rien à voir, magazine de la rédaction d'Alternante FM, avec la complicité de la librairie Vent d'Ouest. Nous accompagnons dans la rue Claudine Huneau, co-créatrice à Nantes du Théâtre de la Chamaille, psychanalyste et auteur de « Je me petit suicide au chocolat, à l'écoute de l'obésité », paru aux éditions Le Nouvel Attila. Quel sens a pris pour vous le mot chamaille ?
Ah ! Le mot chamaille, alors. Le mot chamaille, au départ, il était lié au fait que, quand nous avons créé la compagnie à Pâques 72, avec Yvon Lapousse, Hervé Tougeron et moi-même, nous faisions du spectacle pour enfants. Et donc, le mot chamaille, chamaille, chamaillerie, se chamailler, c'est-à-dire, on pourrait dire, petite dispute ou petite émulation presque affectueuse, a été associé à ce nom de la compagnie. Donc pour moi, je ne peux plus entendre le mot la chamaille. Pour moi, la chamaille, c'est la compagnie qu'on a créée, clairement. Ce mot n'a plus aucune autre signification, ne peut plus en avoir que celui-là.
Sauf que le théâtre de la chamaille n'est plus.
Oui, il n'est plus, tout à fait. Oui, on l'a dissous en 95. Mais pour moi, le mot chamaille va rester attaché à cette expérience de 20 ans, à peu près, un peu plus même, de plus de 20 années de compagnie où là, je vivais par le théâtre, dormais théâtre, mangeais théâtre, parlais théâtre. C'était une sorte d'exclusivité dans ma vie, en fait.
Le lien avec la psychanalyse ?
Alors, en fait, c'est drôle parce que en reparlant avec Yvon Lapousse, avec qui j'ai une très belle amitié qui continue, donc ça c'est beau. Hier, on parlait de Ronald Leng, dont on a adapté des textes extraits de Nœuds et puis de « Est-ce que tu m'aimes vraiment ?» Déjà en 75, puisque c'était très drôle, hier soir j'étais à la librairie Gualarne à Lannion, qui a été créée par Bernard Loriot. Et Bernard Loriot et sa femme Nicole Loriot avaient créé dans les années 70 une association qui s'appelait Rencontre, qui a préfiguré la scène nationale du carré magique qui existe maintenant à Lannion. Et il nous avait fait venir en 75 ou 76 avec la création sur Ronald Leng et Pinter. Et en fait, pour répondre à votre question, finalement, je me dis, mais dès le début, en fait, on s'occupait un peu de choses analytiques puisque on tombe sur Leng, on lisait des choses de l'antipsychiatrie à l'époque, anglaise, et on en fait un spectacle. Donc, j'ai l'impression quand même que cette question, elle a plus ou moins tout le temps été là, même si, à l'époque, j'étais très très loin de la psychanalyse. Mais je me souviens avoir assez rapidement lu les textes d'André Green, ses analyses sur Shakespeare, après d'avoir lu les analyses de Daniel Siboni sur Shakespeare. Et vraiment, je pense, le pas que je fais par rapport à la psychanalyse, c'est quand je rencontre Roland Meyer, avec qui j'ai été mariée pendant 22 ans, qui est psychanalyste. Je pense que là, ça a été le déclic. Est-ce que je l'aurais rencontré aussi parce qu'il était l'ouverture à tout le champ de la psychanalyse ? Peut-être inconsciemment aussi. Je pourrais dire quand même que, au fond, la manière dont je pratiquais le théâtre et déjà l'écriture à l'époque, était une forme d'analyse, participait d'une certaine analyse. Et puis, quand je rencontre Roland Meyer, je lui parle de Siboni, et en fait, c'est lui qui donne le déclic, et je vais voir Daniel Siboni à Paris, j'ai rencontré Roland Meyer à Nantes, et là, je démarre une première analyse avec Siboni. Ça a duré 2 ans à peu près. Et c'est 10, 12 ans plus tard où j'ai repris une analyse beaucoup plus longue de 8 ans avec Jean-Richard Freiman, qui est l'actuel président de la Fédération européenne de psychanalyse à Strasbourg. Et il s'est passé une chose assez surprenante, c'est que aussi bien Jean-Richard Freiman que mon mari Roland Meyer me disaient « Reconnais que tu es analyste ». Et ce sont aussi des chanteurs lyriques, qui au début faisaient un travail scénique avec moi. Et parfois, certains me disaient « Est-ce qu'aujourd'hui, on peut simplement parler ?» Parce que je ne sais plus où j'en suis, de mon désir du chant, de mon désir du plateau, mon rapport à ma voix, enfin, etc. Et je dirais que c'est un petit peu venu comme ça. C'est-à-dire, alors, vraiment quelque chose qui s'est développé. Je suis assez profondément convaincue que ce sont les patients qui nous font venir analystes, et à chaque fois différemment. Et ça, aujourd'hui, j'ai une patientèle assez importante à Paris. Je vois bien comment chaque patient ou chaque patiente, dans sa singularité, m'appelle à être encore autrement analyste. Et ça, c'est très concret. C'est quelque chose que je ne cesse d'observer.
Pour être encore plus concret ou concrète,
oui.
Qu'est-ce qu'être analyste ?
Qu'est-ce qu'être analyste ? Alors, bien sûr, on va dire, c'est d'abord une écoute. C'est une aptitude à l'écoute, c'est un désir d'écoute. Mais si on entend bien que écoute ne signifie pas uniquement se taire, écouter ne signifie pas uniquement se taire, et que l'écoute, elle peut questionner. L'écoute, elle peut renvoyer des choses. Et l'écoute, quand on est analyste, en fait, on entend ce qui cherche à se dire et qui s'interdit encore d'être dit. C'est ça qui se passe avec les patients. Alors, être analyste, et pour moi c'est très important, ce n'est pas analyser quelqu'un. C'est-à-dire, les patients ne sont pas analysés par moi. Ils sont analysants en ma présence. Et ils sont analysants parce que je suis là et parce que je mets en place ce qu'on va appeler un lieu de l'analyse, un lieu analytique. Mais il ne suffit pas qu'il y ait un divan et un fauteuil pour que le lieu de l'analyse existe. Ça suppose que l'analyste qui est là crée cet espace d'écoute où, parce qu'il écoute d'une certaine manière, alors la personne qui est en face de lui, ou plutôt sur le divan, va entendre ce qu'elle dit et qu'elle ne sait pas qu'elle dit. C'est très souvent que nous disons des choses et puis à un moment nous découvrons ce que nous disons effectivement dans ce que nous pensions dire. C'est ça le travail. Et donc c'est un travail très actif. Ça n'est pas du tout un travail où il serait analysé, agi par moi, pas du tout. Il y a presque une forme de collaboration. C'est ce qui fait aussi que le travail est différent avec chaque patient ou chaque patiente. C'est un champ extraordinaire, vraiment, la psychanalyse. Enfin, je crois qu'il y a une singularité si radicale de la psychanalyse, c'est un champ extraordinaire. Ouais.
Nous accompagnons dans la rue Claudine Huneau, auteur de « Je me petit suicide au chocolat » à l'écoute de l'obésité, paru aux éditions Le Nouvel Attila.
On va s'intéresser à « Je me petit suicide au chocolat » avec le sous-titre « À l'écoute de l'obésité ».
Ouais.
Donc on comprend bien, après ce préambule, le sous-titre. Comment je peux qualifier ce livre ? Parce que ce n'est pas tout à fait un essai ou une étude comme le ferait Sigmund Freud.
La question de la forme était très difficile à résoudre. Je ne voulais pas être en surplomb de la parole du patient. Et le risque était évidemment très grand de proposer la situation d'un patient ou la parole d'un patient et de l'expliquer, de l'éclaircir, d'en dénouer les fils, etc. Et je n'avais pas envie d'être dans cette position-là, parce que je ne voulais pas faire un ouvrage pour des analystes. Je pense très clairement que des confrères ou des consoeurs auraient pu souhaiter que je fasse, par exemple, une ou deux études de cas très poussées et que le livre soit ça. Mais d'entrée de jeu, je ne voulais pas faire ça parce que je voulais que mon livre puisse être lu, y compris par les gens concernés. Au début, j'étais vraiment pas sûre que ça se produise. Aujourd'hui, je vois que si, puisque j'ai des messages beaucoup sur les réseaux sociaux de personnes en problème de surpoids ou d'obésité et qui lisent le livre ou qui m'entendent sur des radios. Et surtout, je voulais que ce soit un acte littéraire. C'est-à-dire, en fait, je pense que écrire ne m'intéresse pas tellement si ça n'est pas un acte de création littéraire. Et j'ai mis du temps, j'ai dû travailler pendant un an et demi à peu près rien que sur la question de la forme. Au début, j'ai écrit des dialogues entre eux et moi. Puis ça ne me satisfaisait pas, je trouvais que j'étais encore en surplomb au fond. Et en fait, à un moment, j'ai eu idée de mettre dans leurs paroles des choses aussi que je leur avais dites, que je leur disais en séance, et parfois qu'ils acceptaient ou qu'ils pouvaient complètement rejeter. Mais ça veut dire que chaque portrait que j'écris, qui sont donc, les portraits sont fictionnés, il s'étale sur des mois, mais peut-être aussi bien 3 ou 4 ans, et il y a un travail de condensation de ce qui a été perçu, de ce qui s'est compris, de ce qui a été approprié, de ce qui s'est approprié, et ce qui me permet aussi d'avoir beaucoup d'humour, parce que quand ils s'emparent de quelque chose que je leur ai dit, ils prennent position aussi par rapport à ça. C'est ce qui fait que je peux faire dire à une patiente « je vous déteste de m'avoir demandé ça, je vous déteste quand je pense à mon corps, enfin, etc. » Ça me donnait une très très grande liberté, en fait, de faire ça. Et puis, il y a d'autres notions ou d'autres questions que, spontanément, je traduisais en poème. Comme ça insistait, je me suis dit, j'assume ça. Donc j'ai écrit des poèmes. Il y a des listes, donc les listes des actions impossibles quand on est trop gros, les listes de pourquoi on mange. Ce sont des objets littéraires qui me plaisent beaucoup, en fait.
Et puis, il y a des feuilles colorées.
Oui.
Qui sont chapitrées. Je pense qu'il y a une liste presque exhaustive de tous les régimes disponibles.
Non, je pense pas. J'ai allé sur Internet, je me suis amusée à les relever, avec beaucoup d'humour là aussi. Non, je pense que l'imagination humaine est sans limite entre le régime sous Pochou et le régime, je sais plus, Hollywood, etc. Non, je pense qu'il y en a d'autres. Et j'ai pas fait le tour du monde, donc sans doute que dans d'autres pays, d'autres sensibilités, il y en a d'autres. Ce serait intéressant d'aller voir qu'est-ce que c'est les régimes en Asie, par exemple, je sais pas. Ça pourrait être intéressant.
Avec quand même cette idée que tous les régimes sont utiles, ce qui est pas forcément quelque chose qui est partagé.
Alors, en fait, ce que je dis, c'est que je peux dire ça, et je dis aussi que les régimes, c'est les meilleurs alliés de l'obésité. En fait, un régime, c'est vrai qu'il va témoigner toujours du souhait de la personne de faire quelque chose pour elle-même. Donc, il y a quand même quelque chose dans ce sens-là où elle se dit « je peux me donner à moi-même les moyens de ». Sauf que aucun régime ne travaille évidemment la relation de la personne à son corps et à la nourriture. Donc, quand elle arrête le régime, qui veut dire quand même se soumettre à nouveau à une loi qui autorise certains aliments qui en interdit d'autres. Donc j'ai envie de dire, cette loi, elle reboucle la personne dans une dépendance. Une fois qu'elle a perdu des kilos, souvent ça se passe, là, le régime s'arrête, elle est devant un vide. Et au fond, comme rien d'autre n'a été travaillé, elle n'a pas de choix finalement autre que de reprendre les kilos pour les perdre avec un autre régime dont on dit qu'il va vachement mieux marcher que le précédent. Parce que c'est un marché. Et là encore, on n'échappe pas à cette question que je soulève à la fin, qui est l'hyperconsommation de notre société. Et que ce soit hyperconsommation de tout ce qui fait grossir, et après hyperconsommation de tout ce qui serait censé faire maigrir, voire même des opérations. On est en pleine injonction de consommation, quel que soit l'objet.
On n'a pas expliqué le cadre où vous travaillez dans une institution.
Oui. Là, j'ai été sollicitée en fin 2012 pour donner une consultation. On ne me demandait pas psychanalytique particulièrement, mais c'est ce que j'ai proposé, dans un centre médico-chirurgical de l'obésité, dans la clinique Paul Piquet à Sens, où il y avait donc une équipe dirigée par un chirurgien, Roberto Arianzo, avec une diététicienne, Julia Bonnemaison, avec un nutritionniste, avec un chirurgien esthétique, enfin une chirurgie réparatrice. Donc vraiment une équipe constituée. Et je suis intervenue pendant 10 ans, où j'ai vu à peu près 3000 patients, donc pendant des durées qui variaient de 6-8 mois à 5 ans peut-être.
Et c'est là où vous avez pu constater que les opérations, ça ne suffisait pas forcément.
Non. Le taux d'échec est très important sur les opérations dans le monde. C'est à peu près de 44%. S'il n'y a pas de travail psy, de fait, en préopératoire et en post-opératoire, il y a beaucoup de risques d'échec. Parce que, en fait, il y a deux choses différentes. Il y a perdre des kilos de graisse et sortir de l'obésité. Ce n'est pas la même chose. Sortir de l'obésité, c'est véritablement imaginer qu'on puisse avoir une autre relation à son corps, une autre relation à autrui. Or, on n'a pas la même place selon qu'on a 40 kilos de plus ou de moins. Les regards d'autrui ne sont pas les mêmes. Ce que dit autrui de nous n'est pas la même chose. Et donc, ça change énormément de choses. Et quand des patients disent, par exemple, les régimes, on les fait parce qu'ils ne nous feront perdre que des kilos de graisse. Pas autre chose, pas ce qui fait problème. C'est très clair. Et donc, pour que les patients puissent, à certains moments, me dire des phrases comme ça, c'est qu'on travaillait sur ce terrain-là. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe quand vous faites un régime? Qu'est-ce que vous en attendez? Qu'est-ce que maintenant ce serait de sortir de l'obésité? Pourquoi ça fait peur? Le fait que, par exemple, des patients peuvent perdre beaucoup de poids, puisque c'est toujours le cas avec une opération la première année, et vont continuer à se voir exactement comme avant. Et à acheter des fringues, s'ils sont tout seuls, ils vont acheter des fringues des tailles qu'ils portaient avant. Mais ça, c'est des centaines de témoignages que j'ai eus là-dessus. Et puis, petit à petit, ils commencent à imaginer qu'ils puissent ne plus être obèses. Mais ce n'est pas simple. Parce que dans quelle mesure ça va venir trahir le type de relation qui s'est établie avec autrui. Quand je fais ce portrait d'Achille qui contient à la fois un infirmier de nuit mais aussi d'autres personnes dans le soin ou l'aide à domicile, des gens comme ça, et quand il dit mais moi on m'appelle Doudou dans le service, je rassure tout le monde, quand j'aurai plus mes kilos je serai qui? Je rassurerai plus personne, mais j'aurai quelle place? À la fin, quand il dit, c'est mon écriture, mais ça traduit ce qu'il craignait. Quand il me disait, j'ai peur de disparaître. Je suis qui? Il y a vraiment une question d'identité, en fait. Et si on se place uniquement du côté du poids à perdre, de la masse de graisse à perdre, alors là, on loupe une question, mais qui est essentielle, parce que c'est cette question de l'identité qui fera qu'à un moment, au moindre événement qui va survenir, et que les patients auront l'impression de ne pas maîtriser, ils repartent à ce moment-là dans la nourriture. C'est une question énorme, en fait. Et quand on voit la place de l'obésité dans le monde d'aujourd'hui, il y a un travail colossal à faire, en fait.
La nourriture, c'est pour combler un manque. Le manque, il se décline, il est affectif, il est...
Bien sûr. Moi, ce que j'ai constaté...
Il y a plein de vie autour de nous.
Ce que j'ai constaté, c'est que la dépendance à la nourriture allait toujours de pair avec une dépendance autre. Donc, un événement qui n'était pas passé, qui était toujours insupportable, ça pouvait être une séparation, ça pouvait être la mort de quelqu'un, ça pouvait être une humiliation, ça pouvait être dans l'enfance, mais aussi à l'âge adulte. Des gens, par exemple, qui avaient subi des humiliations au travail ou voire des licenciements et qui ne s'en étaient jamais relevés, par exemple. Et ça peut être aussi une dépendance à un parent envahissant. Ça peut être une dépendance à une maltraitance, à une violence de la part de parents, mais aussi à un amour débordant. Comme une patiente qui me disait, moi j'ai été couvée d'angoisse.
Nous accompagnons dans la rue Claudine Huneau, auteure de « Je me petit suicide au chocolat », à l'écoute de l'obésité, paru aux éditions Le Nouvel Attila.
Votre poids, ça vous préoccupe ou pas?
Ça fait longtemps que ça me préoccupe.
Moi, ça me préoccupe.
Ah oui,
ça me préoccupe beaucoup.
Tu as quel âge?
J'ai 11 ans.
11 ans? Pourquoi ça te préoccupe?
Je sais pas trop pourquoi ça me préoccupe. Après, peut-être c'est une histoire aussi parce que j'ai peur d'être... Déjà, je suis dans un petit sous-poids, mais un petit. Mais j'ai peur d'être trop en sous-poids parce que ça pourrait être un peu dangereux. Et puis aussi, je sais pas pourquoi, peut-être parce que mon frère pèse plus que moi. Il est plus costaud, on est d'accord?
Vous êtes les grands-parents?
Oui.
J'imagine.
Vous avez deviné. Pourquoi le chocolat est plutôt du plaisir? Pourquoi de relier à l'obésité?
C'est qu'on peut se petit suicider à beaucoup de choses, au camembert, aux rillettes, au chocolat. Mmh. J'ai choisi le chocolat parce que ça sonne bien et que j'adore le chocolat aussi. Mmh. Ça ne condamne pas le chocolat, bien au contraire.
Sur la remarque de votre petit-fils.
Il est très drôle d'ailleurs, j'ai beaucoup apprécié moi sa réaction.
C'est le plus grand du multifils.
Lui, il a peur d'être en sous-poids.
Oui, parce que, je sais pas, donc... en fait, il est très fasciné actuellement par les mangas. Donc il est sous influence manga, on va dire, assez simple.
Ouais.
Le manga, je sais pas, c'est bande japonaise,
oui,
où
oui.
Les héros sont des cheveux longs, ils sont maigres, ils sont sveltes, ils sautent, ils ont des aventures un peu miraculeuses, c'est un peu du milieu du rêve et de l'imagination, hein, c'est ce monde d'un manga. Donc, et c'est ça qu'il veut traduire par son physique. Et puis en plus, il a le cerveau qui marche bien. Donc, oui. Ok, on y arrive, mon chéri. Voilà, donc oui, il a 10 ans, mais il se considère déjà comme un adulte. Donc,
Et puis la façon dont il a pris la parole. Ou si, moi j'ai un problème avec le poids, j'ai trouvé ça très joli de sa part de le dire comme ça.
On est toujours admiratif de ses petits enfants, non?
Oui, mais il a une belle présence.
Oh, j'en ai 5, ils sont tous pareils. Donc,
oui.
Bon. Ils sont tous aussi. J'avais ma petite fille qui avait 12 mois chez moi, 14 mois. Estomaqué par la vitalité, la vie qui explose, cet apprentissage du contact, de la relation, c'est extraordinaire.
C'est beau.
La sociabilité des enfants, ça s'apprendait vite.
Que vous le disiez comme ça, c'est magnifique aussi.
Voilà.
Ouais.
Merci Philippe.
De rien.
Je vous laisse aller acheter votre nez rouge.
Enfin, ça attrape. Je suis le clown. C'est mon jour de mon anniversaire en plus.
Ah,
aujourd'hui.
Mon anniversaire. Au revoir. Ce qui m'a presque le plus intéressé, c'est la parole du petit garçon, du petit Alyosha, qui donc se demande déjà s'il est dans une norme ou pas. Ça, c'est quand même incroyable, à 10 ans, quoi. Alors qu'il est très très bien, ce gosse, quand on le voit, il est superbe. Mais ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'il aurait peur que son frère plus jeune, en fait, soit plus costaud que lui. Donc c'est plutôt ça qu'il travaille. Ouais.
Est-ce que c'est une question qui vous préoccupe, le poids?
Ah, le poids? Non, j'ai envie de dire, malgré la pression assez importante de ma famille. Mais parce que j'ai toujours été dans les normes.
Mais pourquoi ils font pression?
Parce qu'ils sont cons.
Mais ils font pression pourquoi?
Parce qu'il faut pas prendre trop de poids, il faut pas être trop mince. Et qu'il y a des anorexiques dans ma famille de génération en génération, donc j'imagine que c'est une inquiétude héréditaire.
Ah, ils ont peur que vous soyez trop maigre.
Non, enfin, trop maigre ou trop grosse.
Et c'est eux qui fixent la...
Ah non, bah non. Moi, j'ai pris 10 kilos quand je suis allée vivre au Sénégal. Je suis revenue heureuse. Et j'ai jamais reperdu ces 10 kilos. Et je suis vachement bien dans cette nouvelle peau.
Ouais, mais c'est génial ça. Et la famille a peur de ces 10 kilos.
Ils ont peur. Vous êtes courageux de faire des micro-trottoirs, hein. C'est pas un exercice facile. Ils font des remarques, mais je les envoie chier. C'est mon père que j'envoie chier, puis ma mère, on s'en fout.
Ouais. Au fond, quand je vous écoute là, est-ce que c'est des 10 kilos qu'ils ont peur ou de cette liberté que vous vous êtes octroyée, de cette femme que vous devenez, que vous êtes, et sur laquelle, finalement, ils n'ont plus de contrôle? C'est votre corps ne leur appartient pas.
Oui.
Vous partez en plus, vous partez en Afrique, vous partez au Sénégal, vous vivez là-bas une aventure qu'ils ne connaissent pas, et vous, vous transformez votre corps comme vous avez envie de le vivre.
C'est tout à fait bien résumé. C'est ce qui est écrit dans votre livre.
Non, c'est pas écrit tel que, parce que je vous écoute là et je réfléchis à partir de ce que vous dites. Mais oui, il y a quelque chose de ça. En fait, je pense que une des grosses difficultés qu'on a à traiter dans les relations humaines, c'est qu'au fond, il y a une tendance toujours très très forte à posséder l'autre, ou le corps de l'autre.
C'est bien vrai. Je crois que j'en avais été d'autant plus frappée en lisant Beauté fatale de Mona Chollet, qui m'avait beaucoup libérée sur l'injonction à la beauté,
oui.
L'injonction sur le corps de la femme est encore plus forte que sur celui de l'homme.
Tout à fait,
tout à fait. Et c'est pour ça que je m'en libère effectivement avec pas mal de force, parce qu'il faut faire un mouvement brusque pour se dégager d'une entrave.
Exactement. C'est s'extraire de quelque chose.
Ouais.
D'une patte familiale.
Eh ben oui, oui. Toute évidence. Hein.
Oui. Parce qu'au fond, quand vous faites ça, et c'est beau comme vous le dites, vous partez, vous vivez quelque chose de très beau, vous revenez, vous êtes très bien dans votre corps, c'est une manière de dire ma vie m'appartient, je suis la seule propriétaire, seule conductrice de ma vie et de mon corps.
Ah, bah ça me fait du bien de vous l'entendre dire, tiens, j'avais oublié ça. Parce que ça fait un moment le Sénégal, hein,
ouais.
Déjà. Mais c'est marrant, c'est cool. Vous vous appelez comment ?
Moi, je m'appelle Claudine Huneau.
Dans plusieurs de mes séparations, j'ai pris du poids ou j'en ai perdu. Ou au contraire, en mettant en couple, j'ai repris du poids. En fait, je trouve que le poids, c'est aussi lié un peu à notre état mental. Et en tout cas, moi, j'ai la chance parce que j'ai un métabolisme qui grossit pas, très peu. Mm. Mais je fais attention, voilà, parce que j'aime bien faire du sport et que l'âge allant, on fait gaffe quand même. Mais oui, c'est vrai ça. Ouais, finalement, on peut prendre du poids pour peu qu'il y ait un événement qui nous fasse tomber en dépression et puis on se gave de chocolat. Et je dis ça parce que j'ai acheté du chocolat en plus juste avant. Des mouchoirs et du chocolat, mais pas de chagrin, hein. Tout va bien.
Merci à Claudine Huneau, auteure de « Je me petit suicide au chocolat » à l'écoute de l'obésité, paru aux éditions Le Nouvel Attila, et merci à
Philippe,
Alyosha,
Domitil
pour leur libre participation à ce programme réalisé avec la complicité de la librairie Vent d'Ouest.
Qu'est-ce que vous retenez de cet exercice d'interview en marchant dans la rue ?
Mais je dirais, au fond, le courage que vous avez à le faire, parce que ce n'est pas un acte facile d'interrompre au fond ce dans quoi la personne est, et de l'interpeller. Et d'autant plus de l'interpeller sur son corps éventuellement. Donc j'aime bien cette improvisation. Et j'en mesure aussi la difficulté. Mais ce qui m'a vraiment intéressée, c'est la spontanéité de la parole de l'enfant et la spontanéité de la parole de cette jeune femme. Ce qui veut dire qu'il se sentait suffisamment en confiance pour prendre la parole de cette façon-là.
Ou libre ?
Oui, tout à fait. Libre de dire exactement comment il se sentait. Et l'enfant le dit sans passer par la parole de l'adulte. C'est ça qui est très beau. Je trouve.